Bonjour à tout le monde. Alors avec moi, il n'y a pas de surprise. On continue dans l'évangile de Jean. Dernière fois, c'était le chapitre 12, et bien maintenant, c'est le chapitre 13. Donc, évangile de Jean, chapitre 13. Dans le chapitre 12 de son évangile, Jean nous signale que c'était là les dernières paroles publiques de Jésus avant son arrestation. C'était le verset 36 du chapitre 12. Et que désormais, il allait se tenir caché des autorités juives. Alors lisons ce texte. Jean chapitre 13, les versets 1 à 30. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta : « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua : « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se rassit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui avec lequel j'ai partagé mon pain se retourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui qui que j'envoie, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples, déconcertés, se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt vers Jésus, lui demanda, « Seigneur, de qui s'agit-il ? » Et Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite !» Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'aller acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Le texte que nous venons de lire relate donc un des derniers épisodes de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Enseignement qu'il illustre par un geste physique, un peu comme certains prophètes de l'Ancien Testament le faisaient pour illustrer la parole qu'ils transmettaient de la part de Dieu. C'était juste avant la fête de la Pâque, nous avons-nous lu, fête qui était immédiatement suivie de la fête des pains sans levain qui, elle, durait une semaine. Jean commence par nous expliquer ce que Jésus avait en tête au cours de ce repas avec ses disciples et ce qui a motivé son geste insolite. Il savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. Il savait aussi, c'était le verset 3, que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il avait parfaitement conscience de son origine et de sa destinée. Il venait d'auprès de Dieu, comme cela est annoncé dès le premier chapitre de cet évangile, et allait retourner auprès de lui. Mais pour cela, il lui fallait passer par la croix. Et cet événement était imminent. Jésus savait donc très clairement ce qui allait se passer, et qu'il tenait en quelque sorte entre ses mains la réalisation de tout le plan de Dieu envers sa créature tombée dans le péché. C'est pour cela qu'il nous est dit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas le projet de trahir son maître et de le livrer. Et cela aussi, Jésus le savait. Au cours de notre vie, voire même d'une seule journée, bien des pensées peuvent être semées dans notre cœur. S'il s'agit d'une pensée du diable, que la Bible appelle convoitise, il nous revient de l'extirper immédiatement, avant qu'elle ne germe et ne produise son fruit, le péché. Au cours du repas, Jésus se lève pour laver les pieds de ses disciples. Était-ce au cours du repas pascal lui-même? Les spécialistes ne sont pas tous d'accord là-dessus, ça n'a pas grande importance, parce qu'il y avait plusieurs repas à ce moment-là. Jésus donc se lève du repas, littéralement, car il est très probable que lui et ses disciples prenaient ce repas en position allongée, comme c'était devenu la norme pour les repas de fête, même chez les Juifs. Il dépose son vêtement de dessus, sans doute un vêtement de fête, et se ceint d'un linge autour de la taille. C'était tout à fait la tenue du serviteur, de l'esclave. Il verse de l'eau dans une bassine et commence à laver les pieds de ses disciples. On peut imaginer leur stupéfaction. Ce geste était normalement réservé aux serviteurs ou aux esclaves, et le voir réalisé par l'hôte lui-même est totalement incongru et terriblement gênant. Le premier à réagir, comme d'habitude, c'est Pierre. Il proteste. Jésus lui demande de patienter, lui disant qu'il ne comprend pas son geste maintenant, c'est pas grave, il le comprendra plus tard. Mais Pierre continue à se récrier. Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. La réponse de Jésus est énigmatique pour Pierre comme pour tous les disciples à ce moment-là. Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Ça, c'est une parole très forte, qui ne peut pas se limiter à la seule question des souillures quotidiennes au contact de ce monde. En fait, par ce geste, Jésus explique de façon imagée à ses disciples que sa mort, accomplissant le symbole de la Pâque, est nécessaire pour qu'ils soient lavés de leurs péchés. Certes, ils sont déjà purs par la parole de leur maître qu'ils ont reçue et acceptée par la foi. Mais, comme pour tous les hommes, ils ne peuvent être justifiés aux yeux de Dieu que par la mort de Jésus à leur place et à la nôtre. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Ce « pour », C'était substitutif, hein, c'est à la place de. Au verset 3, Jean 15, verset 3, nous dit, Jésus dit, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. » C'est aussi ce que Paul dira en parlant de la purification de l'Église, donc des rachetés de Christ, en Éphésiens 5, 25. « Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » La parole de Dieu, reçue avec foi, a donc sa propre puissance de purification. Mais Pierre se récrit, donc on a vu. Si vraiment je n'ai plus rien de commun avec toi, si je ne te laisse pas me laver les pieds, eh ben alors lave tout. C'est probablement ce qu'il veut dire en parlant des mains et de la tête. Mais Jésus le rassure. En fait, tu es tout propre. Tu n'as besoin que d'avoir les pieds lavés. Bien que Jésus ne le dise pas explicitement, l'image évoque les souillures inévitables du croyant dans un monde pécheur. Jean, dans sa première épître, parlera de ces souillures que contractent les chrétiens. 1 Jean 1, verset 8. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, notez que Jean s'inclut dans ces coupables. Nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Alors au verset 10, Jésus répond à Pierre, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes purs, mais pas tous. » Au verset 11, Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Cette parole nous permet de savoir que Jésus a bel et bien lavé aussi les pieds de Judas. Et cela prouve qu'aucun rite, même accompli par Jésus lui-même, ne pouvait procurer la purification spirituelle. La vraie purification s'opère à la fois par la parole de révélation de Jésus et par le sacrifice expiatoire de sa vie qu'annonçait l'ablution des pieds. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remet son vêtement et se remet à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ?» Il semble qu'il en arrive à l'enseignement principal qu'il voulait leur communiquer, enseignement qui avait été un peu différé par la réaction de Pierre. Et voici cet enseignement. C'est que dans le royaume des cieux, dont Jésus est Seigneur, les échelles de valeur sociale humaine sont totalement inversées. Les disciples ont raison de l'appeler maître. Le mot grec, c'est didaskalos, qui veut dire enseignant, celui qui enseigne, le maître. Et Seigneur, celui qui est au-dessus de tout, car il l'est en effet. Mais si donc le maître et Seigneur leur a lavé les pieds, c'est-à-dire accomplir envers eux le service le plus humble qui soit, c'est parce qu'il attend que ses disciples agissent de même les uns envers les autres. Il vient de leur donner un exemple pour qu'ils fassent de même, c'est-à-dire pour que leur comportement les uns envers les autres soit empreint de la plus grande humilité. Vraiment, je vous l'assure, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. De fait, les disciples sont les messagers de Christ, envoyé dans le monde pour annoncer le message que Jésus vient d'exprimer, la purification du péché par sa mort, en pratiquant ce, comme lui, le pardon et le service. Et Jésus a sorti cet enseignement d'une béatitude, quand il dit « vous êtes heureux hein, », c'est une béatitude, verset 17. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique ». La proclamation de l'Évangile et la pratique du pardon et de l'humilité sont donc la clé, ou une des clés peut-être, du bonheur chrétien. Au verset 18, Jésus ajoute que cette béatitude n'est malheureusement pas destinée à tous ses disciples. « Je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui partage mon pain se tourne contre moi. » C'est une citation du psaume 41, verset 10. La trahison de Judas est le moyen par lequel la volonté de Dieu va s'accomplir selon les Écritures. Cela montre que tout était écrit depuis longtemps, que rien n'échappe à la prescience de Dieu, même si la responsabilité humaine reste entière pour autant. Satan a utilisé la convoitise de Judas envers l'argent pour le pousser au péché le plus abominable. Judas reste responsable d'avoir cédé à cette convoitise, même si cela servait parallèlement au plan de salut de Dieu par la mort de son Saint-Fils. Au verset 19, « Je vous le dis dès maintenant, avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. » La fin de cette phrase est bien la traduction littérale du texte grec de Jean, même si ça donne un résultat un peu bizarre en français. « Afin que vous croyez que moi, je suis. » Jésus reprend là une parole qu'il avait prononcée publiquement devant ses détracteurs en Jean 8, verset 58. Il leur avait dit « Vraiment, je vous l'assure, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Allusion non voilée à la parole de l'Éternel à Moïse au buisson ardent. « Je suis celui qui suis. » Les Juifs auxquels il s'adressait en Jean 8 ont d'ailleurs très bien compris l'allusion, puisqu'au verset 59, il est écrit « À ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. » Ils ont réagi ainsi parce qu'ils comprenaient qu'ils s'identifiaient à l'Éternel, ce qui à leurs yeux était un blasphème. Ses disciples eux-mêmes avaient besoin de comprendre qu'il était non seulement le Messie promis à son peuple, mais bien plus, le Fils de Dieu lui-même, partageant totalement la nature divine de l'Éternel. Jésus vient donc de dire à ses disciples qu'il est Dieu, et il les assure maintenant que ceux qui recevront leur message recevront Dieu lui-même. C'est le verset 20. « Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Maintenant, la parole prophétique que Jésus a citée du psaume 41 va se réaliser et cela le trouble profondément. Ce qui le trouble, c'est la pensée que l'un de ses disciples qui va le trahir, que c'est bien l'un de ses disciples, pardon, qui va le trahir, bien qu'il l'ait su dès le début. En effet, bien avant, au chapitre 6 de cet évangile, verset 70, il dit à ses disciples « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12 ? Et pourtant, l'un de vous est un diable. » Par ces mots, ajoute Jean, il désignait Judas, fils de Simon Iscariote, l'un des 12, qui allait le trahir. Les disciples sont déconcertés, se demandant bien de qui il parle. Pierre fait signe à Jean, qui était juste à côté de Jésus à table, de lui demander de qui il parle ainsi. Notons au passage que Jean se désigne non par son nom, mais par l'expression « le disciple que Jésus aimait ». Et c'est la première occurrence de cette expression dans son évangile. Cette expression n'est pas le reflet d'un quelconque sentiment de supériorité de la part de Jean par rapport à ses condisciples, mais le sentiment profond de l'amour de Jésus pour lui, tout simplement, sans esprit de comparaison. Nous partageons le même bonheur que Jean. Chacun de nous est le racheté que Jésus aime au point d'avoir donné sa vie pour lui. Jésus accepte de lui montrer de qui il s'agit par la désignation du morceau. Dans notre traduction, il est dit un morceau de pain. Dans le texte grec, il n'est pas dit de quel morceau il s'agissait. Donc on ne sait pas en fait. Hein. Mais plus probablement, semble-t-il, un morceau de viande trempé dans la sauce du plat qu'il va tendre à Judas. Parce qu'en effet, c'était la coutume orientale, une façon d'honorer un convive, de lui tendre un morceau de choix. Alors, probablement que ce n'est pas du pain. Mais bon, c'est pas grave, c'est le mot psomium hein, qui, dans le texte grec, désigne un morceau sans précision de sa nature. Verset 27, ce verset est terrifiant. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jean nous a dit au verset 2 que déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Ainsi, le dernier geste d'affection de Jésus envers son disciple précipite la soumission finale de Judas au pouvoir des ténèbres. Mais celles-ci n'ont ni comprise ni maîtrisée, comme on pouvait le lire en Jean 1, verset 4. Comme l'écrit le théologien Donald Carson, Judas accepta le morceau trempé dans le plat, mais refuse l'amour de son maître. Au lieu de le briser et de le plonger dans la contrition, le geste de Jésus ne fait que l'endurcir. À cet instant, Satan entra en Judas. L'expression évoque probablement une possession totale. Après avoir donné le morceau à Judas, Jésus ajoute « Ce que tu fais, fais-le vite ». Jean nous dit qu'aucun des convives ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres, ce qui était la coutume à la Pâque notamment. On se rappelle que Judas se donnait l'apparence d'avoir grand souci des pauvres, quand il s'était indigné du gaspillage à ses yeux que Marie avait fait d'un parfum très coûteux pour oindre Jésus. Dès que Judas eut pris le morceau, il se hâta de sortir. Et Jean ajoute, il faisait nuit. Ce détail, il faisait nuit, est resté dans la mémoire de Jean qui, lui, savait la chose terrible qui était en train de se passer. Mais il a aussi une signification théologique certaine. Jésus dira très peu de temps après, lorsqu'on viendra l'arrêter au jardin des Oliviers, « J'étais chaque jour avec vous dans la cour du temple, et personne n'a mis la main sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure, et les ténèbres vont exercer leur pouvoir. » On pourrait mettre la première diapo. Quelques enseignements qu'on peut peut-être tirer de Jean 13. Au cours de notre vie, voire même d'une seule journée, bien des pensées peuvent être semées dans notre cœur. S'il s'agit d'une pensée du diable que la Bible appelle convoitise, il nous convient de l'extirper immédiatement avant qu'elle ne germe et ne produise son fruit, le péché. Jacques dit cela de façon remarquable, « Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. » Jacques 1, versets 14 et 15. Jésus a dit à ses disciples, « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. » On voit ça un peu plus loin, en Jean 15, verset 3. Et j'ai rappelé donc que cette parole de l'apôtre Paul en Éphésiens 5, 25, « Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. » Ce qui fait qu'on peut conclure que la parole de Dieu, reçue avec foi, a donc sa propre puissance de purification. Ce qui fait qu'il ne faut pas s'en priver. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion, dit Jean dans sa première épître, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ça, c'est 1 Jean 1, verset 8. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus avait dit à ses disciples, « Mais vous êtes tous purs, vous n'avez besoin que de vous laver les pieds. » Et là, c'est ce dont traite Jean de nouveau, là, dans son épître. Il s'agit des péchés que vous commettrez. Oui, mais bien sûr, on est des pécheurs, on connaîtra, on continuera à commettre des péchés. Mais on les reconnaît et nous sommes purifiés. On a vu que aucun rite, même accompli par Jésus lui-même, là, ce lavage des pieds, ne peut procurer en lui-même la purification spirituelle. Puisqu'elle a lavé les pieds de Judas, et ça n'a rien changé. La vraie purification spirituelle s'opère à la fois par la parole de révélation de Jésus et par le sacrifice expiatoire de sa vie. Ça, c'est Donald Carson qui a écrit cette phrase. À la fin de l'épisode du lavage des pieds, Jésus dit à ses disciples, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » La proclamation de l'Évangile et la pratique du pardon et de l'humilité sont donc la clé du bonheur chrétien. Vous êtes heureux, c'est un bonheur. Vraiment, je vous l'assure, dit Jésus, celui qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Et ça, c'est un extraordinaire encouragement pour nous. Hein. Si une personne reçoit notre parole, il reçoit Jésus, et recevant Jésus, il reçoit le Père. Que demander de plus ? Jean s'autodésigne comme le disciple que Jésus aimait. Eh bien, nous partageons le même bonheur que Jean. Chacun d'entre nous peut dire « Je suis le racheté que Jésus aime au point d'avoir donné sa vie pour moi. »